Aujourd'hui, nous recevons M. Bernard Cerchellini, qui est professeur première classe de linguistique à l'Université de Paris 7, directeur de l'Institut national de la langue française au CNRS, et vice-président du Conseil supérieur de la langue française depuis 1999. Il est spécialiste du francien, de la naissance du français, de la question de l'orthographe. Il est membre de l'ouvroir de littérature potentielle, conseiller scientifique de l'Encyclopédia Universalis et expert auprès du Comité national d'évaluation des universités. Bernard Cerchellini a écrit de nombreux ouvrages, je vais vous en citer quelques-uns. La parole médiévale, en 1981, Éloge de la variante, histoire critique de la philologie, 1989, La naissance du français, 1991, L'accent du souvenir, 1995, Le roman de l'orthographe, 1996, À travers le Jabberwocky de Lewis-Carroll, 1997. Il a aussi traduit Noam Chomsky au Seuil en 1975. Voilà, donc Bernard Cerchellini, c'est à vous.
Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier vous-même, Yves Michaud, et toute l'équipe de votre université pour votre invitation, qui est un très grand honneur pour moi et aussi un très grand plaisir. J'ai l'impression ce soir d'être un peu Jean-Saul Partre dans l'écume des jours, avoir une telle affluence. Ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Grâce à vous, c'est arrivé pour moi. Je vous remercie. Quand on feuillette la presse française et plus généralement francophone, et que l'on s'intéresse aux articles qui traitent de la langue, et ils sont nombreux, courriers des lecteurs, chroniques, etc., on tombe sur un cri partout répété. Le français est en crise, en décadence, il est perdu, envahi par l'anglais, déparé de fautes, il est à l'agonie. C'est ce qu'on lit dans la presse et sans arrêt des ouvrages récemment, un de Maurice Druon, un de Claude Duneton, venant d'horizons intellectuels et politiques différents et se rejoignant en ce domaine, deux ouvrages disent la même chose, le français est perdu, la guerre est terminée. Ce cri est très réconfortant. D'une part, il témoigne d'un intérêt très général, constant, pour la langue française. C'est, pour citer l'historien anglais, « la langue est en France et en francophonie en général une passion française ». C'est notre passion principale. Et je disais l'autre jour, à propos de l'exposition que nous préparons à Lyon, que nous devrons parler de la querelle de l'orthographe, de la féminisation, que la langue française est une affaire Dreyfus permanente, à travers les siècles, jusqu'à nous. On peut ajouter aussi que la religion principale des Français, la religion monothéiste principale, c'est celle du dictionnaire. On a tous l'expérience de ces déjeuners familiaux du dimanche, tout à fait agréables, qui se terminent mal parce qu'une querelle apparaît sur un accent circonflexe, sur un point de grammaire, sur un mot, et on se lève pour aller voir le dictionnaire. Et on ne trouve pas, généralement, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, les familles les plus modestes, quand elles ont un livre à la maison, c'est un vieux petit Larousse qui sert au Scrabble, qui sert aux disputes familiales, ainsi de suite. Je dis religion monothéiste, à la fois religion, car on considère que le dictionnaire dit la vérité, dit le vrai sur la langue, et donc il dit le sacré, et aussi monothéiste, car on dit toujours le dictionnaire. Et il n'y a que quelques scientifiques malvenus comme moi pour rappeler qu'il y a 36 000 dictionnaires, qu'ils ont tous une théorie de la langue, une vision de la langue et qu'ils divergent, même au plan de l'orthographe. Amusez-vous, si j'ose dire, à comparer une lettre prise dans un petit Larousse et dans un petit Robert. Un petit Larousse, un petit Robert, c'est 50 000 mots, 50 000 entrées. Il y a au moins, d'après mes calculs, entre 3 500 et 5 000 entrées qui n'ont pas la même orthographe. Il ne s'agit pas seulement de mots comme « cachère » ou autre, mais comment écrivez-vous « néo-capitalisme » avec trait d'union ou pas? Vous verrez, les dictionnaires divergent. Bien. Donc en fait, les dictionnaires ont varié constamment, ils sont nombreux, ils admettent certains mots et n'en admettent pas d'autres, suivent une orthographe. Il n'empêche que dans l'idée que l'on se fait, il y a le dictionnaire, car ce dictionnaire dit la norme, et elle est sacrée. Donc, premier point, ce cri est réconfortant parce qu'il montre l'intérêt que tout le monde a pour la langue française, cette religion dont je parlais. Deuxièmement, il est réconfortant car il est faux, bien sûr. C'est-à-dire, il est extrêmement ancien, dès la naissance du français, dès les premiers grammairiens, au fond, dès le XVIe siècle, on a un discours de décadence, d'inquiétude. Au XVIe siècle, on dit que le français est fichu parce qu'il est infiltré d'italianisme, et qu'on ne parle plus français, on parle italien. Prenez les articles habituels sur l'invasion de l'anglais, remplacez anglais par italien, vous aurez les mêmes du XVIe siècle, hein, tout simplement. Et on se moquait également de ce français qui était en décadence. Vaugelas lui-même déteste le mot bijoutier, c'est un mot récent à l'époque, il le dit mal formé, et il ajoute qu'il n'a aucun avenir. André Thérive, au début du siècle, allait bille en tête contre l'expression parc floral, par exemple, c'est tout à fait amusant de constater cela. Quant à l'Académie française, quand une commission de terminologie de l'informatique, il y a une vingtaine d'années, a proposé un mot nouveau pour remplacer software, un mot sur lequel elle demandait l'avis de l'Académie, un mot formé nouvellement, le mot logiciel, l'Académie a donné un avis défavorable. Bien. Tout le monde utilise le mot logiciel tous les jours et quand j'étais délégué à langue française, il m'est arrivé d'avoir des entretiens avec le président de la République de l'époque qui me disait « Alors, Sir Chiglini, que faites-vous comme délégué ?» Je dis « Monsieur le Président, nous créons des mots. Donnez-moi un exemple de mots que vous avez créés. » Je dis « Monsieur le Président, par modestie, je n'en dirai pas, mais un de mes prédécesseurs a créé logiciel. » Et François Mitterrand m'a dit « Logiciel, personne ne l'a créé. C'est un mot de la langue, c'est un mot de tous les jours, c'est évident. » Je dis « Non, mais c'est la rançon du succès. Nous avons créé logiciel, tout le monde l'utilise. » Alors, la liste est longue des grammairiens qui disent que le français est fichu, qu'il y a trop de mots étrangers ou autres. Alors, s'ils avaient raison, ces grammairiens, on ne parlerait plus français depuis longtemps. Comme nous parlons français, vous et moi, ce soir, ils ont tort, ce qui est réconfortant. Bien. Quand j'étais délégué à la langue française, il y a quelques années, je recevais des associations bien aimables, présidé par d'anciens préfets qui venaient me demander de l'argent pour leur association en me disant « le français est fichu, nous le défendons ». Et je disais « comme vous avez raison ». Et j'avais dans ma poche toujours une carte sur laquelle j'avais une citation « le français est perdu, dans 10 ans, on ne le parlera plus ». Alors la personne me disait « comme c'est vrai ». Je disais « André Thérive, 1910 ». Bien. Bon, ça jetait un froid, mais je versais la subvention quand même. Donc, tout ça est réconfortant, intérêt pour la langue, angoisse, inquiétude, le français se porte bien. C'est une langue très vivante et on peut s'en réjouir. Le français n'est pas en décadence, le français n'est pas perdu, le français n'est pas en danger, c'est une langue vivante. D'abord au plan quantitatif, il faut commencer par cela. Tout simplement, on n'a jamais autant parlé français dans le monde depuis que cette langue s'est transformée à partir du latin vulgaire. Vous lirez partout le regret du français, langue de l'Europe au XVIIIe siècle. Langue de l'Europe, langue des châteaux de l'Europe. Certes, Casanova écrit en français, un français admirable. Certes, mon cher prince de Ligne écrit en français, mais les paysans du prince de Ligne, les amis vénitiens de Casanova, parlaient leur langue, ils ne parlaient pas le français. C'était la langue des châteaux, la langue de l'élite. Au XVIIIe siècle, qui parlait français en France? Quand l'abbé Grégoire, dont je salue la mémoire ici même, lance une grande enquête sur la langue des Français, car les Français sont devenus citoyens, il faut qu'ils se comprennent, il découvre par son enquête qu'on ne parle plus français à la porte de Paris. Et un siècle auparavant, rappelez-vous les lettres de Racine à La Fontaine, quand Racine va voir son grand-oncle à Uzès, à 100 km de Paris, il est chez les sauvages. Bien, dit-il. Donc, qui parlait français? Une élite en France et en Europe, donc dans le monde. Mais la langue n'était pas la langue de tout le pays. On a, dans le monde, et entre 120, 150, 160 millions de gens qui ont le français comme langue maternelle. Et, fait important, on parle plus français hors des frontières de France qu'en France. Nous sommes quantitativement minoritaires en francophonie. Il faut le savoir. Le français est la langue de tous ceux qui parlent cette langue. Nous sommes le berceau historique du français. Nous ne sommes pas les dépositaires. Et nous ne devons pas imposer notre norme aux Québécois, aux Belges, aux Sénégalais. J'y reviendrai. Donc, une langue quantitativement en plein développement et sans, sans compter ceux qui continuent à l'apprendre. Bien sûr, ils l'apprennent moins. Il faut se battre pour que cette langue soit présente, mais elle n'est pas mathématiquement en régression. Deuxièmement, qualitativement, il faut là aussi adopter le point de vue de la science. Nous sommes pour cela ici ce soir. Y a-t-il en effet beaucoup de mots étrangers dans la langue française ? Également, il faut raison garder. De même que les travaux de sociologie, d'économie, montrent qu'il n'y a pas plus d'étrangers en France aujourd'hui qu'en 1930, et que si l'on prend des cycles depuis la fin du Moyen-Âge, je pense aux travaux de Jacques Verrières, jusqu'à nous, on est dans une constante. De même, mon laboratoire, qui a fait des analyses depuis plusieurs siècles, dit qu'il n'y a pas plus de mots étrangers dans la langue française actuellement qu'il y en avait au XIXe siècle ou au XVIe siècle. Pas plus, ils sont différents, c'est tout. Ouvrez Marcel Proust, la langue de Proust est bourrée d'anglicismes. Ce ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. On ne dirait plus aujourd'hui « Swann était très smart ce soir-là ». Proust disait comme ça. Bon, on dit autrement. Bien. D'autant plus qu'il y a toujours eu la seule langue qui n'emprunte pas de mots à l'étranger, c'est une langue morte. Le français a donné 40% de son vocabulaire au moins à l'anglais. Eh bien, les Anglais sont gens aimables et courtois. Ils nous les rendent, c'est pas grave. Bien, ils nous les rendent, on leur donne tunnel, ils nous rendent tunnel, nous en faisons tunnel. C'est une sorte de ping-pong sur la manche. C'est un signe de vitalité. Bien, paquebot, tunnel viennent de l'anglais, beaucoup de mots anglais viennent du français, ainsi de suite. Et d'ailleurs, encore une fois, jusque vers 1950, c'était l'italien qui avait donné le plus de mots aux français. La liste est extrêmement longue des mots qui viennent de l'italien. Donc, il y a des emprunts constants, des échanges, et ceux-ci, quand ils s'installent, sont nécessaires. Après tout, nous avons eu besoin de constituer un vocabulaire des chemins de fer. Les chemins de fer avaient commencé en Angleterre, eh bien on a emprunté wagons, tunnels, rails, ainsi de suite, qui sont devenus de braves et mots beaux français. Le reste, ce sont des mots à la mode. Or, comme disait Cocteau, le propre de la mode, c'est que ça se démode. Et je disais tout à l'heure que les anglicismes de Proust ne sont pas les nôtres, les miens ne sont pas ceux de mes enfants, ainsi de suite. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bien, donc, qualitativement, il n'y a pas d'invasion et on parle un français tout à fait convenable à Châteauroux. Bon, à Châteauroux, non, parce que les gens qui tonnent contre l'invasion anglaise prennent toujours l'exemple des Champs-Élysées. Bien sûr, mais on peut aussi parler de Châteauroux. À Châteauroux, on parle français, on parle berrichon, on parle aussi un peu wolof, je l'ai entendu, c'est pas antipathique, c'est bien. Et on parle pas du tout anglais au marché de Châteauroux, n'ayez pas peur. Je dis ça pour les gens qui parlent de l'invasion anglaise. Bien. Donc, on a un échange et un vocabulaire qui, qualitativement, est vivant. On invente à peu près 20 000 mots en langue française par an. Entre les langues techniques, l'argot, la langue des jeunes, des banlieues, des centres, ainsi de suite, tous les métiers techniques, c'est environ 20 000 mots, c'est tout à fait créateur. En laissant de côté les mots inventés par les poètes, les écrivains. En gros, c'est un brassage permanent. Il est constant, il n'est pas plus élevé qu'avant, il n'est pas moindre. La langue est vivante. Bien. Alors certes, il faut la défendre, il faut l'illustrer et la faire rayonner. En effet, ne soyons pas angéliques, il y a un commerce, une économie des langues. Ce sont des outils de communication, de culture, d'échange, de pouvoir aussi, et les langues ne sont pas dans le ciel. Elles sont parlées par des hommes et des femmes, elles sont des langues officielles de pays qui sont en rivalité. De fait, actuellement, le français est en rivalité avec d'autres langues. Il l'a toujours été, mais nous nous inquiétions moins parce que nous avions la primauté avant. Donc nous trouvions cela très bien. Très bien que Casanova, que le prince de Ligne écrivent en français. Ça nous semblait d'ailleurs naturel, puisqu'au XVIIIe siècle, nous disions que le français était une langue universelle. La plus belle langue du monde. J'ai entendu une fois un académicien très âgé dire « Le français est la langue », puis il cherchait comme ça, « est la langue par excellence ». Merveilleux. Bien. Je n'ai pas osé lui demander ce qu'il entendait par une langue par excellence. Bien. Mais donc, c'est cette idée qui vient de Rivarol, en quelque sorte, hein, cette idée que le français est naturellement une langue universelle, la langue de tous les gens cultivés, la langue de la clarté, vous connaissez le discours de Rivarol, ainsi de suite. Or, c'est une légitimation intellectuelle d'un état de fait. Si le français est la langue de l'élite européenne et mondiale au XVIIIe siècle, c'est grâce à nos écrivains, naturellement, à la pensée des Lumières, mais aussi grâce à nos armées. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, globalement, nous avons gagné les guerres. Et donc, en particulier, nous avons imposé le français comme langue de la diplomatie. Ce ne sont pas nos adversaires qui ont gentiment dit « Ah ben le français devrait être la langue des traités de paix hein ». C'est que nous avons mis notre glaive sur le traité de paix. Le glaive, c'était la langue. Bien. Donc, le français universel est lié à des conditions historiques, culturelles, économiques. Pensez au rayonnement de la France en Europe. La France en Europe est le pays le plus peuplé, etc. etc. Et les idées aussi. Bien. Bon, il se trouve que nous ne nous inquiétions pas quand nous avions la primauté en Europe. Nous ne l'avons plus. Nous ne l'avons plus. Il se trouve que pour d'autres raisons, et chaque siècle, je dirais, il y a une grande langue internationale. Cela a été le grec à l'époque des Latins. Rappelez-vous que le grec était la grande langue de la philosophie et de la réflexion. Cicéron préférait le grec, naturellement. Ça a été le latin au Moyen-Âge et au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Le français ensuite, cela a failli être l'allemand, c'est l'anglais aujourd'hui. Ce sera peut-être l'espagnol ou le japonais demain. Alors ce que nous devons faire, nous, c'est on ne peut pas empêcher l'anglais d'être une grande langue internationale. L'anglais est commode pour prendre son avion à Helsinki ou même pour envoyer un article scientifique à d'autres collègues au bout du monde. Il faut maintenir un pluralisme des langues dans le monde. Il faut faire en sorte que des langues aient leur place, l'espagnol, le russe, l'allemand, l'italien, le français. Il y a donc une rivalité, naturellement, des positions à garder. C'est tout à fait normal. Bien. Donc, il y a des rivalités technologiques, économiques. Nous devons faire en sorte que le français ait sa place. Et également au plan européen, puisque l'Europe est un bouquet de langues, comme disait Alberto Moravia, le plurilinguisme européen est fondamental. Ce qui a fondé l'Europe, c'est justement les langues. L'Europe a donné au monde toutes ces grandes langues internationales. L'Europe, c'est le mélange d'allemand, d'italien, d'espagnol, de portugais. Il faut maintenir cela. Vous savez que cela coûte très cher. Une part importante du budget de l'Union européenne passe dans la traduction et l'interprétariat, puisqu'il y a 14 langues officielles et que l'on traduit du finlandais en grec, du portugais en danois. Si vous connaissez quelqu'un qui traduit bien le portugais en danois, vous me l'indiquez, sa fortune est faite. Bien. Dans la mesure où on traduit. J'ai visité à Luxembourg il y a quelques années une sorte de tour de Babel. Ce sont les traducteurs, pas les interprètes, les traducteurs par écrit, de l'Union européenne. Ils sont 3500 à peu près. Et l'entrée de la Finlande en Europe a entraîné l'embauche de 250 personnes, interprètes, traducteurs, ainsi de suite. Ça coûte cher, c'est nécessaire. L'anglais ne peut pas être la langue officielle de l'Europe, pour des raisons évidentes. C'est la langue d'un des pays d'Europe, peut-être pas le plus européen. C'est la langue d'un grand pays qui, comme disait le général de Gaulle, est avec nous d'accord sur l'essentiel quand on a besoin d'eux, mais qui tout de même impose leur langue au monde, ainsi de suite. Le plurilinguisme européen est fondamental. C'est conforme à l'historique de l'histoire. J'ai pas encore commencé ma conférence, mais ne vous inquiétez pas. Hein, d'accord. Donc, je suis dans l'introduction, là. Donc, conforme à l'histoire de l'Europe, conforme aux nécessités. Nous devons donc, nous, Français et francophones, être présents dans le monde pour la francophonie en Europe. Alors, que faut-il faire pour cela? Eh bien, il faut une politique en faveur du français, mais une politique fondée sur la science, sur un savoir réel, non pas sur une nostalgie, non pas sur des erreurs, non pas dire le français est envahi de mots étrangers, le français est perdu. Il faut estimer. En fait, j'ai traité une partie de ma conférence là, quand même. Donc, estimer l'état de santé de cette langue et agir en fonction. C'est-à-dire, fondée sur la science, et nous sommes ici à l'Université de tous les savoirs, il y a donc un savoir sur la langue, un savoir historique, un savoir synchronique, il y a un savoir sur la langue, et seul ce savoir peut amener une politique que nous souhaitons tous, nous francophones, en faveur du français. Alors, que faut-il faire pour cela? Début de la conférence, bien, qui sera en trois parties, mais je peux la faire un peu plus vite. Vous m'arrêtez quand je... D'accord, parfait. Premier point, et je l'ai déjà dit, je crois qu'il faut d'urgence relativiser la norme trop stricte et percevoir les faiblesses de ce que j'appelle la monoglossie française. Voilà un mot de plus, ça fait 20 000 et 1. Bien. En effet, les linguistes, depuis longtemps, décrivent des situations linguistiques qu'ils appellent de diglossie. Diglossie, en grec, ça signifie deux langues. C'est une situation qui est la plus fréquente au monde. Le monolinguisme est exceptionnel dans le monde. Il se trouve qu'en France, je vais en parler, nous pensons être monolingues, nous ne le sommes pas. Mais beaucoup d'habitants de cette planète parlent 2, 3, 5, 6 langues. Un enfant africain a même plusieurs langues maternelles. Il arrive au langage en parlant la langue de sa mère, la langue de son père, la langue du village, la langue du marché, ainsi de suite. Le plurilinguisme est la chose la plus répandue dans le monde. Le cerveau est fait pour ça. Jusqu'à 8, 9, 10 langues, avant l'âge de 10 ans, aucun problème. On peut maîtriser jusqu'à 10 langues, jusqu'à 10 ans. Après, c'est plus difficile, on garde un accent. Bien. Donc, il n'y a aucun problème. C'est nous qui sommes exceptionnels, en quelque sorte. Bien, il faut le savoir. Donc, les linguistes décrivent ce qu'ils appellent la diglossie, c'est-à-dire une situation où on parle au moins deux langues, et ces langues sont généralement en position hiérarchique. Il y a la langue légitime et la langue illégitime. Exemple, le linguiste Ferguson, dans les années 60, a créé ce concept en prenant l'exemple des Caraïbes. Pour nous, Martinique et Guadeloupe, diglossie entre le français officiel de l'administration et le créole. Et donc, avec deux discours différents, on ne dit pas les mêmes choses, on ne parle pas aux mêmes personnes en créole et dans la langue officielle. Donc, la diglossie est la chose constante. Je considère que les Français, du moins dans leur représentation, sont en situation de monoglossie. Ça signifie qu'ils considèrent qu'ils ne parlent dans leur pays qu'une langue et que cette langue est homogène, pure, normée. C'est ça la représentation. Et quand on voyage et qu'on s'intéresse aux langues, ce qui est mon cas, on est étonné de voir que dans aucun autre pays, on a une telle conception de la norme. Et que dans aucun autre pays, un locuteur vous dit « Est-ce que je viens de dire, est-ce que c'est français ?» Vous n'entendrez pas un Italien vous dire « Est-ce que c'est italien ce que je viens de dire ?» Encore moins un Américain. Or, constamment, les Français vous disent « C'est français ce que je viens de dire ?» Alors, rassurez-les, il faut répondre « Oui, puisque vous venez de le dire. » C'est tout. C'est clair, c'est français. Bien. C'est donc ce que j'appelle la monoglossie. Considérez qu'il y a un bloc dur qui est le bloc de la langue, qui a des dépositaires, en particulier l'académie, le bon usage, la grammaire, l'école, et que l'on ne doit pas en dévier, mais qu'on en dévie toujours. D'où la conséquence de la monoglossie, l'insécurité linguistique constante. Il n'y a pas un peuple moins sûr de sa langue tout en l'aimant, mais tout ça est lié, bien sûr, tout l'adorant, que le français. Faut-il dire ceci ou cela ? Ce matin, j'ai donné un entretien à Radio France Internationale sur la féminisation des dons de métier dont je vais parler. J'ai expliqué longuement que j'étais favorable à la féminisation. Et donc, la journaliste a terminé en disant « Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? La ministre ou madame le ministre ?» Je dis « Mais écoutez, les deux. Pour une fois qu'on peut être un peu souple, allons-y. » Je crois qu'elle ne m'a pas compris. Elle voulait que je sois un oracle étant directeur de l'Institut de la langue française et que je tranche. Non. Je crois que le but, c'est de dire aux gens « Toute langue est variable, la variété est propre à toutes les langues, y compris au français, et que la norme peut être, y compris pour le français, et que la norme peut être relativement assouplie, qu'elle est nécessairement assouplie, et que le français n'est pas ce bloc dur qui est en grande partie fantasmé et derrière lequel on court. Regardez la situation d'insécurité linguistique de nos amis belges, qui ont un complexe d'infériorité par rapport aux français. Ils considèrent que les français parlent la meilleure langue et qu'eux parlent une mauvaise langue. Résultat, ils ont les meilleurs grammairiens qui soient. Et bien sûr, la meilleure grammaire française, c'est la grammaire de Grevis. Elle a été faite par un Belge. Pourquoi ? Pour compenser ce sentiment d'insécurité. Hans était un immense grammairien, et l'Académie royale de Belgique est une admirable académie formée de grammairiens et de philologues. Donc la sécurité a du bon. Bien, pour cela. Donc en fait, on a une monoglossie française qui a donc, bien sûr, bien des avantages. Ça va de soi, je ne les développerai pas ce soir, ils sont clairs. La langue française est un grand processus d'intégration. Et ça, c'est une des gloires de notre pays, de notre République, qui fait que les gens qui arrivent dans ce pays adoptent très vite la langue, leurs enfants la parlent, et il y a une intégration républicaine par la langue. État, nation, langue, on a un trio qui s'est constitué autour de la Révolution française et qui est fondateur. La République parle français, on devient citoyen par l'école, et le but premier de l'école, c'est d'enseigner la langue. Donc on voit très bien, et cela continue à fonctionner. Il faut que ça continue à fonctionner. Il faut enseigner le français à l'école. Et le français commun, sans démagogie, sans ghettoisation. On ne va pas enseigner le français des banlieues à des garçons et des filles qui le parlent. On va leur enseigner une langue qui leur permette de communiquer, d'être citoyens, de ne pas seulement parler à leurs copains du quartier, mais à d'autres. Je crois à une langue commune, officielle, pas rigide, mais qui permettent de communiquer. Le français commun, avec ses variations, ses variétés, mais un français de partage. Nous le partageons en tant que citoyens, nous le partageons en tant que francophones. Donc les avantages sont nombreux. Mais il faut insister sur les inconvénients, c'est-à-dire que à considérer qu'il n'y a qu'une langue en France et qu'elle est très rigide, qu'elle est ce bloc dur de la norme, on dit ou on ne dit pas. Combien nous trouvons chez les bouquinistes de bouquins soldés, dites ceci, ne dites pas cela, des manuels de conversation. Si nous considérons qu'il y a ce bloc dur, cela implique une très faible ouverture à l'altérité linguistique. Or, parler une langue, c'est comprendre qu'elle bouge, qu'elle est variable et qu'il y a d'autres langues. Or, ce qui me frappe en France, c'est la très faible ouverture, d'une part, à ce no man's land, qu'est le français régional. On a l'impression, depuis l'abbé Grégoire et les Révolutions, qu'il y a d'une part le français de l'Académie, derrière lequel nous courons tous, et puis les patois, le patois du grand-père, un peu ridicule, patoisant, bien, et puis au milieu, rien. Or, les patois ne sont pas des patois, ce sont des langues régionales, très dignes, je vais en parler. Et au milieu, il y a tout simplement ce français régional extrêmement vivant. Il suffit d'être né en dehors de Paris, c'est arrivé à certaines personnes, moi en particulier, pour, 50 ans après, avoir une vingtaine de mots qui ne me quittent pas et qui étonnent les Parisiens. Ferdinand Bruno, le grand grammairien, était né en Lorraine. À peu près à mon âge, il se comptait une quarantaine de mots de Lorraine. Or, il avait vécu à Paris autant de temps que j'ai vécu à Paris. Même chose, il m'arrive de dire « débarouler » pour tomber dans un escalier. Bien, c'est très bien. Ou quelqu'un du Nord dira un « vachingue » pour la serpillière et non pas une serpillière, bien sûr. Donc, il y a tout ce français régional. Celui de Paris, pour moi, est un français régional. Bien sûr, je trouve que c'est terriblement parisien que de déjeuner à midi et dîner le soir. Il se trouve qu'à Lyon, où je suis né, en Belgique, au Québec, partout, on dîne à midi, on soupe le soir. Et on a raison. Car à Paris, que fait-on le matin? On petit-déjeune? Ça ne va pas, vous voyez bien. Moi, j'ai raison. Je déjeune, je dîne, je soupe. C'est complet. C'est comme ça depuis le Moyen-Âge. Si vous déjeunez, vous dînez, vous ne savez pas quoi faire le matin. Bien. Vous prenez votre petit-déjeuner. C'est ridicule. Bien. Donc, ouvrez un dictionnaire. Quand on vous dira déjeuner, repas du midi, il faudra lire déjeuner comme repas du midi, entre parenthèses, régionalisme. Paris. Bien. Voilà, un exemple. Donc, il y a tout ce français régional très vivant et mon laboratoire prépare un gros dictionnaire du français régional. Il y a des milliers de mots. Allez vous promener à Lille, à Lyon, à Marseille, à Bruxelles. On entend un français coloré, vivant et riche et qui est tout à fait légitime et il faut l'utiliser en littérature. Simenon, ouvrez Simenon, il y a toute une série de termes belges dans Simenon. C'est très bien. C'est très bien. Donc, ça nous rend aveugles et sourds à la variété régionale. On se moque un peu, tout Parisien se moque un peu de ses cousins lyonnais ou lillois, mais ils parlent un français tout aussi légitime. Aussi, ça rend aveugles et sourds aux autres langues, car il y a les variétés du français, mais il y a aussi les autres langues parlées en France. Et quand on était libéral, on considérait qu'en effet, jusqu'à l'an dernier, il y avait quelques langues régionales en France. Alors, on citait le corse, le breton, le basque. Combien ? La langue d'oc. L'alsacien, 5. Gascon. Oh, le gascon, c'est de l'occitan. Bah, d'accord, allez, 6, je vous le compte. Le flamand, vers Dunkerque, 7. Oh, le berrichon, oui, c'est plutôt du français, mais enfin, le berrichon, je vous le compte, 8. Provençal, non, c'est dans la Languedoc. L'Alsacien, déjà dit, 8. Picard, 9. Très bien. T'as un Ancho Picard, là-bas. Alors, 9. On se force. Le Basque, 11. Non, le Niçois, c'est de l'Occitan. Aussi. Auvergnat, c'est de l'Occitan aussi. Allez, combien? 12. Le Lorrain. Non, le Lorrain, c'est le Lorrain alsacien, c'est la même forme. C'est germanique. C'est du Picard. Comptez déjà. Vous voyez, si on se bat les flancs, on arrive à peu près à 13-14, quoi. Et là, vraiment, c'est que nous sommes bons. Hein. Ah non, le pied noir, c'est une forme, c'est le français régional, le papaouette. Français régional. Donc, en se battant les flancs et tous ensemble, nous arrivons à 15 langues régionales parlées en France. Les ministres de la Culture et de l'Éducation m'ont chargé l'an dernier d'un rapport sur le nombre des langues régionales en France, préparatoire à la signature de la Charte européenne. Quand j'ai rendu mon rapport, Claude Allègre a dit « Cerchiglini est fou ». 75 langues régionales. Eh bien oui, 28 en Nouvelle-Calédonie, 10 en Guyane. Vous avez oublié le Corse, je vous signale. Hein. Je ne leur dirai pas. Bien, je ne suis pas Corse. Et ainsi de suite. Et puis vous avez oublié le créole, le berbère, le yiddish, l'arabe, le vietnamien, bien sûr. On parle yiddish en France depuis le Moyen-Âge, bien sûr. Le berbère, on le parle depuis la conquête de l'Algérie, 1830, ainsi de suite. Et le créole. La langue minoritaire la plus parlée en France après le français, c'est le créole. Environ 1 million de personnes parlent créole. Et c'est étonnant. Et on découvre soudain un autre paysage. 1 million de personnes, et on parle beaucoup plus créole en région parisienne qu'aux Antilles. Bien sûr, beaucoup plus. La deuxième langue, c'est difficile d'estimer. Je pense que la deuxième langue minoritaire en France est le berbère actuellement. Grand 1 créole, grand 2 le berbère. Le corse, le breton et l'alsacien, pour lesquels j'ai la plus grande estime, viennent bien après. Le tableau est tout à fait différent. Or, qu'est-ce que le créole? C'est une langue qui s'est bâtie à partir du français, qui s'en est séparée. Mais c'est une langue tout à fait digne. On parle, on écrit et on peut enseigner le créole. On a donc un aveuglement à cette richesse inouïe, car la France apporte à l'Europe au moins 75 langues. Nous sommes le pays le plus plurilingue d'Europe. Bien sûr, j'ai ajouté naturellement la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, d'accord. Mais il y a des langues amérindiennes qui sont parlées en France, bien sûr, le long du Maroni. Bien. Donc, on a, mais sans aller à cet extrême, rien qu'en France métropolitaine, je suis arrivé à 35 langues en France métropolitaine, bien sûr, parlées dans nos frontières. C'est-à-dire qu'en fait, la France est un pays plurilingue. Bien. Donc, aveuglement à la diversité même du français, aux langues parlées, et donc il y a beaucoup de nos citoyens qui parlent cette chose admirable, qui est la langue officielle, la langue des citoyens, et une autre langue. Fait qui est passé inaperçu, depuis environ 10 ans en France, il n'y a plus personne qui ne parle qu'une langue régionale ou minoritaire. La dernière grand-mère qui ne parla que breton est morte. C'est-à-dire qu'on a une situation maintenant dans laquelle, et je dois le dire, la République n'a pas à trembler, et je salue une fois de plus les mânes de l'abbé Grégoire, dans la mesure où tout le monde en France parle au moins la langue commune. On peut donc accepter qu'un citoyen parle également basque, breton, créole, berbère ou yiddish, naturellement. Et on est plus riche quand on parle 2 langues, 3 langues, ainsi de suite. Bien, donc, cette monoglossie nous a rendu tout à fait sourds et aveugles à cette richesse linguistique de notre pays. Elle est importante, il faut la préserver. Et faire une politique en faveur du français, c'est aussi faire une politique en faveur du Picard, du Corse, du Breton, toutes ces langues qui nous enrichissent et qui ont apporté au français. Le Picard a donné beaucoup de mots au français. Dépioté, fabliau, ainsi de suite. Même la tôle ondulée est un mot picard. Donc il y a aussi là, des échanges. J'ai pris le picard parce qu'il me passe par la tête. Mais on peut montrer comment les langues régionales et minoritaires ont donné et continuent peut-être à donner. Donc il faut bien voir que nous parlons une langue généreuse, en plein mouvement, et qui dialogue. La force du français, je crois, est, c'est une langue perpétuellement en dialogue. On a l'habitude de dire que tous les pays francophones sont au moins bilingues, voire plurilingues. La Belgique, la Suisse, le Québec, le Canada, les pays africains, tous, dit-on, sauf un. Eh bien, je crois que cette exception est réduite. Nous pouvons dire que la France est un pays plurilingue. Elle a une langue officielle partagée par tous, et puis toute une série d'autres langues dont nous sommes heureux et fiers. Alors, on voit les inconvénients qui est... Il me reste combien de temps ? Combien ? 15 minutes. Bien. Alors, très vite, ma première partie. Cette monoglossie a des raisons historiques. C'est évident. Très, très vite. Je l'ai dit déjà. C'est-à-dire que nous avons bâti cette monoglossie. Cette conception d'une langue unique, pure, homogène, a été bâtie par des siècles. Première raison, historique, voire politique. Il faut bien comprendre que l'État en France s'est bâti sur la langue et que État et langue se construisent l'un l'autre. Et là, je pourrais rajouter trois quarts d'heure à peu près, mais je ne le ferai pas, depuis les serments de Strasbourg jusqu'à l'amendement constitutionnel de juin 92. Serment de Strasbourg, premier texte en français, et ce n'est pas n'importe quoi, c'est un texte qui fonde la France comme pays, l'Allemagne, l'Europe, ainsi de suite. Le premier texte écrit en français est un texte politique, diplomatique, qui fonde pour la première fois une nation française. Après, on peut citer François Ier, on peut citer l'Académie française, la politique de la Révolution française qui instaure, aux dépens des langues régionales, on peut le regretter, une langue nationale, la République de Jules Ferry, et jusqu'à l'amendement constitutionnel de 92, car j'ai participé à cette réforme, qui dit que la République a, pour drapeau, le drapeau tricolore, pour hymne, vous le connaissez, et pour langue, le français. Et du serment de Strasbourg à nos jours, l'État s'est constitué à travers la langue, et la langue à travers l'État. Donc, on a un lien très, très fort, historique. Deuxième raison, institutionnelle. Les voisines de la première, l'État a systématiquement fondé des instances de contrôle, de rayonnement de la langue. Un exemple, et je vais très vite, l'Académie française. Il suffit de comparer l'Académie française avec l'Académie royale de Belgique, pour la francophonie, avec la Crusca italienne, avec l'Académie réale de Madrid, avec pour l'Espagne, ainsi de suite. La seule, et l'Académie américaine par exemple, la seule académie dans le monde qui soit un corps de l'État, qui soit protégé par l'État, payé par l'État, protégé, c'est l'Académie française. Article 1 des statuts de 1635 qui fonde l'Académie française. Nul ne pourra être élu de l'Académie française s'il n'a pas l'accord du protecteur. Le protecteur, c'est Richelieu. Et Richelieu donne ses statuts à l'Académie et donne aussi un sceau à l'Académie. Et sur le sceau, qu'est-ce qu'on voit ? Richelieu. Très bien, c'est très clair, c'est-à-dire que l'Académie, elle est fondée, elle se fonde comme club de discussion autour de l'abbé de Boisrobert. Richelieu voit l'intérêt de la chose, il est malin, il leur offre des locaux, etc., mais sous l'autorité. C'est-à-dire que l'Académie est exactement un corps de l'État. Certes, les élections se font d'une façon tout à fait indépendante, mais dès qu'un académicien ou une académicienne est élue, le premier geste du perpétuel ou de la perpétuelle, c'est de conduire l'élu chez le président de la République. Bien. Donc, il y a cette idée d'une protection et le perpétuel de l'Académie française a un rôle très élevé dans le protocole républicain. On a de part en part, et Marc Fumaroli l'a très bien montré dans un article, l'idée qu'on est, c'est un corps de l'État. On est académicien comme on est préfet ou ambassadeur. Cela dure plus longtemps. Bien. Mais on a vraiment une institution. Et d'ailleurs, et l'Académie a, dans les statuts de 1635, qui commencent donc par des choses très politiques, protection, moralité, elle a pour mission de donner des règles à la langue française. On a donc un corps de l'État. D'ailleurs, Napoléon a demandé à David de dessiner un uniforme, et Napoléon a habillé les académiciens comme ses généraux. Ils sont comme des généraux d'empire, ils ont même une épée. Donc on voit bien qu'on a un corps de l'État. Ce n'est pas critiquable. Dans notre histoire, il fallait qu'il y eût un grand corps gérant la langue. Dans d'autres pays, on confie ça en toute indépendance à des érudits ou des savants. Donc l'Académie française est type même de l'institution. Depuis, et je passe par exemple à l'époque de gaulliste, Le gaullisme a développé une grande politique en faveur de la langue, une politique d'indépendance nationale, et se sont multipliés les conseils de la langue française, sous François Mitterrand de la francophonie, délégation à langue française, ainsi de suite. On a toute une série d'institutions. Troisième raison de cette monoglossie, je vais très vite, eh bien des raisons idéologiques. C'est-à-dire qu'on a, parallèlement aux raisons politiques dont j'ai parlé, aux raisons institutionnelles, on a des corps qui disent le droit dans la langue, on a une conception du bon usage extrêmement étroite. La notion du bon usage s'est mise en place au XVIIe siècle. Auparavant, les grammairiens étaient très libéraux. Ils décrivaient l'usage de la halle, disait Ramu, l'usage du châtelet, l'usage de la cour. Avec Vaugelas, le XVIIe siècle, on a une réduction. Le bon usage n'est plus celui de la halle, malgré ce que dit Malherbe, ni celui du Parlement. Le Parlement sont les érudits. Le savoir perd le combat. C'est l'usage de la cour, et même, dit Vaugelas, de la plus saine partie de la cour. C'est-à-dire que le bon usage, chez nous, relève du dressage du courtisan. Il a été historiquement bâti à l'époque de la monarchie absolue. C'est-à-dire que la plus saine partie de la cour, dit Vaugelas, prononce la langue légitime. Mais quelle est la plus saine partie de la cour ? Nous sommes tous courtisans. Est-ce vous, est-ce moi ? Est-ce eux ? On n'en sait rien. C'est-à-dire que le bon usage pour le XVIIe siècle est cet usage d'insécurité. Porte-t-on encore des rubans verts ou bleus ? J'ai des rubans verts, je ne suis plus à la mode, je suis Alceste. Je dis, regardez le misanthrope. Misanthrope dit, je trouve. Mais non, à son époque, on disait, je trouve déjà. Il n'a plus le bon usage. On a donc un usage qui se définit par quelques marquises, quelques salons, la meilleure partie de la cour, et chacun se demande s'il doit dire cela. Et la grammaire de Vaugelas n'est pas une grammaire synthétique et rationnelle, elle est une grammaire en éléments. Il y a ceci et cela, on hésite, et puis il vaut mieux dire ceci que cela. On a installé, ce que je disais tout à l'heure, une sorte de dressage du courtisan à l'affût de ce qui doit se dire. Alors, cela fonctionne très bien dans un régime de monarchie absolue, avec le roi, la cour, les salons et les marquises qui sont à la fois la source de la langue la plus pure et le mode de diffusion par le salon. Mais les marquises sont mortes. On n'a plus de source au bon usage. Qui est la source du bon usage en ce moment ? Le journal de 20 heures, sans doute. D'où une insécurité linguistique encore plus forte. De quoi regretter les marquises ? Bien. Alors donc, on a, pour des raisons historiques, institutionnelles et idéologiques, l'idée, la représentation, qu'il y a une langue homogène, pure, normée, que quelqu'un, quelque part, sait, mais celui qui est le locuteur ne le sait pas, d'où l'inquiétude, et que cette langue, il faut la protéger, dans la mesure où l'inquiétude est telle qu'on se demande si elle n'est pas déjà en décadence. Je passe à ma deuxième partie, après ça ira très vite. Bien. Ce qui est étonnant dans la langue française, c'est le thème de la décadence. Il est ancien, très ancien. Mais on peut déjà montrer, par exemple, qu'au XVIIIe siècle, l'Académie française considère que l'apogée de la langue est derrière elle. Prenez quelqu'un comme Voltaire. Voltaire tient que la plus belle langue, c'est celle de Racine. Et d'ailleurs, Voltaire s'essaye à écrire des tragédies en vers et en cinq actes. Elles sont lamentables, vous le savez. Bien, mais ce que fait l'Académie au XVIIIe siècle, c'est éditer les auteurs classiques avec des notes et considérer que elle est là pour hériter de cet apogée qui est derrière elle. Donc, en plein XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, on tient que la langue a atteint son sommet un siècle auparavant. Et Rivarol vient justifier ce sommet. Donc, au fond, nous avons toujours en français l'idée que la langue est en décadence, qu'elle a été belle, mais qu'elle ne l'est plus, qu'elle est attaquée. Et je crois que c'est lié à cette notion du bon usage un peu mystérieux, à cette monoglossie. Il y a là comme un sacré Graal, le bon usage comme sacré Graal qu'il faut atteindre, mais personne vraiment n'est perceval. Alors, une des conséquences fâcheuses, et là je vais consacrer 6 minutes à peu près, c'est qu'on a le plus grand mal à moderniser cette langue. Or, si nous voulons que le français reste une grande langue de culture, de communication, d'échange, il faut que cette langue évolue, bouge, Je l'ai dit, il faut créer des mots. Il faut pouvoir faire de la science en français, hein, de la chimie, de l'informatique. Il faut donc créer des mots. Il faut faire bouger cette langue. Or, on a le plus grand mal. On a le plus grand mal car on considère que la norme est fixée. Cette norme, elle a été plus ou moins enseignée à l'école. On ne la touche pas. D'où cette affaire Dreyfus permanente quand on veut aider au progrès de la langue. Beaucoup de pays ont réformé leur orthographe sans aucun problème. Nous avons la plus grande difficulté. Au fond, un seul réformateur en France a été victorieux. C'est l'Académie française elle-même, qui, quand elle publie son dictionnaire, change quelques formes orthographiques. Mais autrement, l'histoire de l'orthographe est l'histoire d'un combat perdu. Alors je vais citer deux exemples de querelles tout à fait intéressantes qui montrent la difficulté de moderniser. J'ai eu le bonheur ou le malheur de participer aux deux. D'abord, c'est la réforme de l'orthographe de janvier 91. J'étais à l'époque délégué à la langue française du Premier ministre Michel Rocard, qui m'avait demandé d'animer le comité d'experts. Et vous rappelez sans doute, nous avons mis la France à feu et à sang. Pendant un mois entier, je devais courir de télévision en radio et je ne cessais de me faire gronder, pour être poli, par des gens qui me reprochaient d'avoir changé l'orthographe d'environ 400 mots. C'est la plus légère réforme de l'orthographe de toute l'histoire. L'Académie a changé beaucoup plus de mots. Avec 400 mots et l'accord entier de l'Académie et des francophones, nous avons mis la France à feu et à sang. Donc, premier exemple, la réforme de l'orthographe. Deuxième querelle à laquelle je suis mêlé, c'est la féminisation des noms de métiers et de titres, puisque mon laboratoire a reçu mission du Premier ministre de préparer un rapport à ce sujet, rapport qui est devenu un livre, je fais une publicité, paru la Documentation française, intitulé « Femme, j'écris ton nom », guide d'aide à la féminisation des noms de métiers. Préface Lionel Jospin. Bien. Alors, quand on regarde ces deux querelles, elles sont tout à fait intéressantes. Elles ont des points communs. Tout d'abord, elles sont bienvenues. Les 400 mots d'orthographe que nous avons touchés, eh bien, on en demandait la correction depuis longtemps. Littré lui-même, par exemple, demandait que l'on changeât l'accent aigu d'événement. Il y a longtemps que l'on sait qu'il faut un accent grave sur le deuxième E d'événement, puisqu'on dit un événement comme un avènement ou un chevènement. Donc, c'est la même chose. C'est comme ça que j'ai convaincu Chevènement de la réforme de l'orthographe. Bien. Donc, bien fondé, de même, il n'est pas normal que le féminin soit réservé au titre bas et pas au titre élevé, entre guillemets. Il n'est pas normal qu'on dise une directrice pour une école maternelle, mais pas pour une direction ministérielle. Tout ceci est tout à fait injuste. La parité doit être dans la langue. Nous sommes, j'espère, tous d'accord. Bien. Deuxième trait commun, le rôle de l'État, qui me frappe. C'est-à-dire que l'État est si important dans la langue en France que même quand il s'agit de faire bouger les choses, il doit... Oh, j'y serai. Il doit donner l'exemple, s'impliquer, mettre en route. Michel Rocard avait organisé les choses pour que l'Académie, enfin les instances d'orthographe en France, donc je me souviens d'un petit déjeuner avec Maurice Druon perpétuel, Bernard Pivot, qui est une instance pour l'orthographe, différentes personnes, votre serviteur, tous mis d'accord pour que toutes les instances fussent d'accord. Donc l'État et l'État pour la féminisation donnent l'exemple. Depuis plus d'un an maintenant, le Conseil des ministres nomme des préfètes, des ambassadrices, des inspectrices générales. Il a le droit, l'État. Il est énonciateur comme tout le monde. Il a le droit de nommer une ambassadrice. Et vous avez le droit de dire une femme ambassadeur si vous le souhaitez, bien sûr. Bien. Troisième trait, les blocages et les difficultés. C'est stupéfiant. C'est-à-dire que les blocages sont évidents. Pour la réforme de l'orthographe, c'était même très curieux. Commençons par la féminisation. La féminisation, c'est très simple. Le peuple est contre les élites. C'est-à-dire que la féminisation marche tout seul. Il y a belle lurette qu'on dit « ma prof hein, » au lycée ou « ma chef » au bureau. C'est fondamentalement dans la langue. D'ailleurs, tout le monde maintenant féminise, les journaux ont féminisé. Cela va tout seul. Lisez les commentaires des puristes, de certains académiciens, des grammairiens, ils se roulent par terre. Mon laboratoire s'est honoré d'une querelle avec Maurice Druon là-dessus, bien sûr, ce qui n'a pas aboli notre vieille amitié entre lui et moi. Il n'empêche que Maurice Druon se bat l'épée à la main pour qu'on dise toujours « un ministre pour une femme ». Bien, moi je dis « une ministre », bien, simplement. Bien, donc, le peuple contre les élites. On voit bien qu'il y a un blocage et j'ai fini par dire à Maurice Druon que si l'usage l'emportait, l'Académie devrait suivre. Et par boutade, il m'a dit que l'usage avait bien tort. C'était amusant. Bon, c'est comme ça. Bien. Mais pour l'orthographe, on a eu un sentiment tout à fait étonnant. Cette fois-ci, c'était les élites contre le peuple, puisque nous étions tous d'accord, Académie, Conseil de la langue, experts francophones, pour faire cette petite réforme. Qui ne l'a pas acceptée ? Au fond, le peuple. Et j'ai reçu beaucoup de lettres de gens me disant « L'orthographe, ça ne vous appartient pas, vous êtes des technocrates. L'orthographe, j'ai peiné pour l'apprendre à l'école, c'est mon patrimoine, n'y touchez pas !» Bien. Il faut tenir compte de cela, c'est important, et cela concerne la monoglossie. Que faut-il faire ? Il faut donc, je dirais, enseigner l'orthographe dans sa dimension historique, montrer que l'orthographe a beaucoup varié depuis le XVIIe siècle, que c'est un consensus, un code, et que l'on peut faire changer les choses sans nuire à la langue. Vous voyez ? Mais je crois qu'il faut toute une pédagogie que nous n'avons pas faite en 90 pour montrer qu'on ne détruit pas la langue quand on ôte un accent circonflexe ou quand on met un accent grave à événement. De même, il faut montrer que féminiser est tout à fait normal, que la langue ancienne féminisait, et que c'est un mouvement profond. Je crois qu'il y a toute une pédagogie pour ne pas heurter ce sentiment monoglossique figé de la langue. Il me reste 3 minutes, je termine pour la dernière partie. Que faut-il faire aussi ? Eh bien, je dirais, troisième partie, donc il faut relativiser la norme, ne pas craindre de faire bouger la langue française, créer des mots, du vocabulaire, moderniser l'orthographe, féminiser, ainsi de suite. Troisième et dernière partie, je serai très très rapide parce que Laurence Danlos en a parlé, il faut ne pas craindre d'envahir les technologies modernes. Internet est une chance pour la langue française. C'est évident. C'est-à-dire que on a montré que les langues passent par 3 stades. Premier stade, le passage à l'écriture. Toutes dans le monde ne sont pas encore passées à l'écriture. La nôtre, vers le 9e siècle, passage à l'écriture, qui est une édification. Deuxième passage, la grammatisation. On fait passer la langue à l'écrit, puis cela implique qu'il y a une forme standard, on l'enseigne, on crée des grammaires, ainsi de suite. Le français a mis ça en route vers le XVIe siècle. Première grammaire, XVIIe siècle, enseignement du français en français, ainsi de suite. Eh bien, la troisième étape, pour l'instant, c'est l'industrialisation de la langue. Nous faisons partie des grandes langues internationales, comme l'anglais, comme l'allemand, comme le russe, l'arabe avec plus de difficultés, il faut l'aider, ainsi de suite, le japonais, qui sont industrialisés, c'est-à-dire qui ont des dictionnaires en ligne, des bases de données, des sites sur Internet, ainsi de suite. Il faut utiliser cet outil très très fort pour assurer notre présence internationale. Ça veut dire que les réseaux, et je arrive vraiment à ma conclusion, comme Internet, ne sont pas forcément une arme de guerre contre nous. D'ailleurs, l'anglais est majoritaire sur la toile, il n'est pas hégémonique. Le français et l'espagnol sont présents. Il faut donc créer des sites, mettre des outils, c'est-à-dire des bases de données, des dictionnaires en ligne, des aides à la traduction. Il faut qu'on puisse communiquer entre francophones facilement. Il faut que les francophiles puissent nous lire. Il faut donc mettre des aides à la traduction en ligne. Il faut que ceux qui ont le désir de lire en français aient des aides. Et on peut très facilement maintenant mettre, quand un texte est publié en français, faire apparaître les mots difficiles, l'analyse grammaticale des phrases complexes, des dictionnaires en ligne, ainsi de suite. Mon laboratoire va mettre bientôt en ligne un immense dictionnaire de 16 volumes papier sous forme de Internet, CD-ROM et ligne. Et j'espère que ça sera gratuit. Il faut donc d'urgence utiliser ces outils pour communiquer entre francophones pour permettre aux francophiles d'accéder à notre langue, à notre culture et l'étudier. Il faut que toute la littérature française soit d'urgence gratuitement sur Internet. Ça commence. Depuis 2 ou 3 ans, nous avons dans mon laboratoire un catalogue critique des sites. Ils sont nombreux. On pourra accéder bientôt très facilement à la littérature. Il faut jouer cette carte. Mais, et là je conclue, c'est une politique que la France ne doit pas, ne peut pas mener seule. C'est une politique francophone, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des pays francophones mettent ensemble des trésors lexicaux, des grands dictionnaires, des bases de données. Il faut aussi qu'on puisse avoir de la terminologie scientifique. Les Québécois sont très en avance dans ce domaine. Il faut que nous le suivions. Nous sommes aussi très bons pour cela. Il faut donc échanger des bases terminologiques pour que quelqu'un qui veut écrire un article de chimie en français puisse accéder facilement à la terminologie, à la phraséologie. Il faut des outils. Par chance, l'électronique et la communication par informatique est là pour nous aider. Il faut jouer ce jeu. Mais cela dépasse la France. Il faut que la francophonie européenne, belge, suisse, marche ensemble et la francophonie mondiale. C'est un problème de mondialisation des langues. Nous répondrons par une réponse mondialisée à ce défi que nous lance la langue anglaise. Pour conclure, je dirais que ouverture à la diversité des langues, ouverture à la variété du français. Hein, le français est aussi légitime à Dakar, à Montréal, qu'à Paris et qu'à Lyon. Utilisation de l'électronique, utilisation des bases de données, c'est-à-dire qu'il est urgent que la France rentre enfin dans la francophonie. Tous les autres pays francophones ont ce programme. Eh bien, prenons-le, fondons-le sur une bonne analyse scientifique des besoins, devenons francophones et notre langue aura pour elle le plus bel avenir. Merci.
Merci à Bernard Serglini. Nous avons 20 minutes pour les questions. Monsieur en bas à gauche.
J'ai entendu que vous étiez membre de l'ouvroir de littérature potentielle, l'ULIPO. Donc je pense qu'une référence à Georges Perec vous ferait plaisir.
Merci.
Alors, dans la vie mode d'emploi, il y a un personnage qui s'appelle Sinoc ou Kinoc ou Tinoc, qui est dans la profession d'être tueur de mots. C'est-à-dire que son métier, c'est d'éliminer des dictionnaires tous les mots devenus un peu rares, un peu obsolètes, pour faire de la place aux autres. Et Perec donne une foultitude d'exemples, tous délicieux, de mots disparus, dont je ne sais d'ailleurs s'ils sont vrais ou faux, mais ils sont vraiment délicieux.
Je pense que Georges en a inventé quelques-uns, c'est normal. Hein.
Vraisemblablement. Mais je pense qu'on devrait peut-être créer, en fait, non pas un nouveau dictionnaire, mais un trésor des mots disparus. Non pas par esprit de musée, mais peut-être qu'on pourrait ressusciter certains vieux mots, leur donner des acceptions nouvelles et peut-être moderniser en douceur le français tel que nous le parlons.
Ah, je partage tout à fait votre sentiment, monsieur. C'est-à-dire que nous devons faire, au fond, comme a fait Ronsard. Hein, Ronsard explique qu'il faut pratiquer le provignement de la langue, dit Ronsard, c'est-à-dire prendre des vieilles racines, comme pour la vigne, et puis refaire jaillir des mots. Après tout, si l'on veut créer du vocabulaire, on peut utiliser des mots anciens. Je prends un exemple, achalandage, hein, pour le commerce. Hein, pour le commerce, il y avait je ne sais plus quel mot anglais qui désignait le fait de, quand on veut ouvrir un magasin, vérifier s'il y aura des clientèles autour. Hein. Eh bien, je crois que les Québécois ont repris le mot achalandage. Le chaland, c'est un vieux mot quand même. Et je l'ai vu maintenant, il commence à être utilisé en France, achalander, achalandage, ainsi de suite. C'est une très belle chose, ça dit bien ce que c'est. On peut fabriquer comme ça. C'est-à-dire qu'on peut reprendre des mots anciens, leur donner vie. Et c'est une façon, après tout, légitime, puisque nous avons la même chose avec l'anglais. Ce sont souvent des mots anglais qui reviennent, donc on peut provigner notre vieille langue. C'est pas si mal, lui redonner une vie. Moi, je suis tout à fait d'accord. Monsieur ?
Pour la curiosité, je peux vous situer exactement l'essence du français, la date, l'essence.
C'était. Oui.
Deuxième question. Vous réjouissez, professeur, c'est légitimement que le français s'étende au-delà des forêts équatoriennes.
Bon, alors je peux répondre plus facilement à la première question. Le français est né le 14 février 842. Je ne sais pas l'heure. C'est-à-dire, me suis permis de publier un livre sur la question. Depuis longtemps, on s'est demandé quand le latin est devenu du français. Et on a écrit une bibliothèque là-dessus sans trancher. J'ai tranché, C'est-à-dire que le jour où on a écrit le premier texte en français, on peut dire que c'est du français. Et donc, je date la naissance du français des serments de Strasbourg. C'est-à-dire le jour, pour moi, c'est très important le passage à l'écrit. Le jour où, pour la première fois, on n'a plus écrit en latin, mais dans cette langue qui était le proto-français, c'était vraiment une langue. Et c'est le 14 février 842. Vous voyez, à un jour près, on aurait pu fêter l'anniversaire. Pour la deuxième réponse, vous comprenez que la question n'est pas seulement linguistique. Alors je dirais que, tout en ayant la plus grande estime pour les langues africaines, toutes les langues sont belles, et il y a de très grandes langues en Afrique, il me semble que ce n'est pas faire du néocolonialisme que de dire à nos amis africains que s'ils ont parallèlement à leur langue, à leurs langues africaines au pluriel, une grande langue de communication internationale, c'est un supplément. Voilà. Et me semble-t-il, on peut concevoir que des États africains prennent comme langue officielle des langues africaines, bien sûr, et le Sénégal y va tout droit avec le Wolof, on est bien d'accord. Je crois qu'il serait dommage de perdre l'accès à une grande langue internationale. Et croyez-moi, j'ai beaucoup d'amis africains qui disent, mais défendez le français, car quand vous défendez le français, vous défendez notre accès à une culture universelle et un savoir. Vous voyez, actuellement, je ne pense pas qu'on puisse accéder à la science la plus en pointe en Wolof. Je prends l'exemple du Wolof parce que c'est la langue africaine la plus grammatisée, écrite. Et donc, je crois que pour encore longtemps, il faudrait que nos amis africains aient un bilinguisme, leur langue, le français, et puis naturellement l'anglais. Ça va de soi, vous voyez. Et je ne crois pas que c'est une position néocolonialiste que de dire ça. En tous les cas, elle est partagée par bien des amis africains, bien sûr. Mais nous en débattrons en privé après, si vous voulez. Madame avait une question.
Je voudrais savoir quelle...
Pardon, c'est vous qui
décidez. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres langues qui seraient atteintes de monoglossie, comme le français? Et évidemment, je pense à l'anglais.
Alors, monoglossie... Non, je ne pense pas à l'anglais. C'est-à-dire que je pense que peu de langues ont un sentiment de la norme si stricte. Prenez l'italien, par exemple. En Italie, on parle plusieurs italiens. On peut très bien, on parle sicilien en Sicile. Un écrivain peut publier un roman parti en sicilien, parti en italien. On ne pourrait pas faire ça en français, voyez. Donc je crois que la monoglossie, c'est plutôt une représentation qu'une réalité. Or, l'anglais n'est pas monoglossique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a certes l'anglais d'Angleterre, vous voulez dire alors. Oui, alors l'anglais d'Angleterre a une norme extrêmement stricte, c'est sûr. Le King's English, le Queen's English est très strict. Mais l'anglais international est au contraire une variété incroyable. Un Américain et un Australien n'ont plus de voyelles en commun, ils n'ont plus de consonnes en commun en ce moment. Pratiquement plus. Donc au contraire, c'est même, je dirais, un danger pour l'anglais international. Je pense qu'il est en train de se déliter. Et que la disjonction entre les divers types d'anglais est à terme un problème pour l'anglais international. Je crois que l'anglais international a atteint son apogée. Je me rappelle qu'Umberto Eco me disait, mais vous êtes drôles les Français, vont lutter contre l'Américain, or il est fichu. Dans 20 ans en Amérique, on parlera espagnol. Je vous ai répondu, je crois qu'il y a quelque chose. Voilà.
Oui, je voudrais savoir s'il y a des moyens pour faire tout ce que vous dites, enfin pour toutes les suggestions sur Internet, la création de mots. Enfin, il me semble qu'il y a... Et puis, par exemple, aussi, le soutien des écoles à l'étranger, de la francophonie, il me semble souvent manquer beaucoup de moyens et prend trop de temps pour accepter des mots techniques, des mots scientifiques dans le discours. C'est-à-dire qu'il faut passer par des tas d'instances. Et c'est extrêmement frustrant.
Bon, alors, je parlerai à titre privé, mais pour avoir été responsable de la politique linguistique auprès de 3 premiers ministres, je suis d'accord avec vous, nous ne manquons pas de moyens, nous manquons d'un peu de simplicité. C'est-à-dire que nous avons en France l'art d'accumuler les structures. Nous avons donc 36 conseils, 36 instances, etc. Et quand on est à la tête d'une de ces instances, on passe une grande partie de son temps à ne pas marcher sur les pieds de son collègue quand on l'aime bien, ou à lui marcher sur les pieds quand on veut installer son pouvoir, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, tout est extrêmement compliqué et je pense qu'on devrait simplifier les choses. Prenez un exemple, la production terminologique officielle. Nous avons 23 commissions dans les ministères. Ces commissions, elles sont formées de gens très dynamiques, très dévoués, qui ont plein d'idées. Mais avant qu'on publie une liste officielle, il se passe un temps fou. Il y a des allers-retours. Enfin, à titre personnel, si je pouvais, je simplifierais tout cela en donnant une très grande autonomie aux commissions. Les commissions sont formées de techniciens, de grammairiens. Eh bien, on leur donne carte blanche. Ils produisent des mots. Un exemple. Il y a plus de 2 ans que la commission de terminologie des finances a proposé quelque chose de très bien pour remplacer stock options. C'est... option sur titre. Option sur titre. C'est très bien. Ça se comprend bien, c'est parfait. Eh bien, 2 ans après, le mot n'a toujours pas été officialisé. Tout le monde dit stock option. Bon, c'est ridicule. Si on avait un système qui permette, de, par exemple, de faire un communiqué de presse tout de suite en disant « La commission des finances étant réunie propose option sur titre », après ça file. Car il ne s'agit pas de... Encore une fois, c'est vous et moi qui adoptez les mots. Si vous ne voulez pas, le mot sera mort. Donc tout ce que peut faire l'État, c'est avoir des structures qui font de la veille lexicologique, terminologique, qui proposent des mots très vite. Et je crois qu'on aurait pu... Non, il ne faut pas être xénophobe contre les mots étrangers. Simplement, ce que je reproche, c'est que stock option n'est pas clair. Il me semble qu'option sur titre est clair. Il y a des titres en bourse, on a une option dessus. Vous voyez ? Donc, si on avait pu très vite lancer ce mot, il aurait pris, et après tout, c'est un problème démocratique, il vaut mieux que les citoyens comprennent le monde dans lequel ils vivent. Or, il se trouve qu'en France, tout le monde parle au moins français. Faisons en sorte qu'on puisse accéder aux finances, à la chimie, en français. Mais je suis d'accord avec vous, ces instances sont un peu lourdes, elles sont très prestigieuses, il faudrait avoir, et grâce à l'informatique, quelque chose de plus rapide. On ne manque pas de moyens, le budget est bon, hein. Le budget est bon. Nous avons une politique culturelle immense par rapport à notre pays. Immense, vous voyez. Mais, bon, c'est enregistré. C'est enregistré. Bon, nous avons beaucoup d'instances. Tant pis, je l'ai dit.
Alors, on a une question là.
Alors, bonsoir. Vous avez parlé de l'orthographe, vous avez parlé du vocabulaire et des changements bon, nécessaires avec l'évolution. Qu'en est-il de la grammaire et de la syntaxe? Parce qu'il y a vraiment des changements qu'on observe chez nos élèves, enfin moi je suis professeure, et il y a des changements qui ont été proposés, je pense aux participes passés, où on a voulu changer les règles et tout ça, pour s'adapter à ce qu'on voyait en usage.
Alors, c'est difficile. Bon, l'orthographe, comment dire? On ne va pas entrer dans cette querelle. Certains grammairiens considèrent que l'orthographe n'est qu'un habit de la langue. Je pense que c'est plus quand même, hein, que c'est une forme écrite de la langue. Donc, comme dirait le législateur, on ne touche pas l'orthographe sans trembler quand même, hein, parce que c'est un monument, il y a beaucoup de savoir et d'histoire. Il n'empêche que l'orthographe est tout de même à la superficie de la langue, nous sommes bien d'accord. La syntaxe est plus profonde. Et je ne reconnais pas, même aux experts les plus savants, le droit de toucher à la syntaxe. Ou à la langue, vous me comprenez, ça appartient à tout le monde. Ceci dit, la question que vous posez, elle est tout autre. Elle est qu'il y a des évolutions dans la langue, il faut bien en tenir compte. C'est bien ça, il y a des évolutions. J'ai enseigné pendant 20 ans de ma vie l'ancien français du XIIe siècle, ce n'est pas le même que celui du XXe siècle. Or, chaque génération a considéré qu'elle enseignait la même langue qu'elle parlait à ses enfants. Depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours, aucun parent n'a eu le sentiment d'enseigner une autre langue. Il n'empêche qu'elle a changé, puisque maintenant on ne lit plus à livre ouvert un livre du XIIe. Donc la langue a évolué. La question est de savoir comment en tenir compte pour enseigner. Vous voyez, à quel moment on considère qu'une forme a changé. D'accord? Alors je dirais que c'est de plus en plus difficile. De plus en plus difficile, tout simplement parce que la norme grammaticale est enseignée pratiquement à tout le monde. Vous voyez, contrairement à ce qu'on peut croire, on parle plutôt bien, et généralement le français, tout le monde va à l'école, tout le monde à peu près sait lire, même si on lit mal, on lit, il y a la télévision. Et donc, on a du mal à faire changer, à faire comprendre à l'école que quelque chose est en train de changer. Un exemple, le subjonctif ou l'indicatif avec après que. Que dites-vous, vous ? Après que je sois venu, après que je suis venu ? Quelle est la norme ? Ah oui, indicatif. Il est évident que c'est un changement en ce moment, qu'à terme, ça sera le subjonctif, il est évident. Mais quand doit-on prendre cette décision et qui va la prendre? quand un manuel scolaire va oser dire avec après-cœur, on met le subjonctif. C'est pas commode, vous voyez, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile que l'orthographe. Bon, l'accent grave sur événement, il n'y a pas mort d'homme. Avec le subjonctif, il y a mort d'homme, il y a des gens qui aiment bien mettre l'indicatif avec l'après-cœur. Vous voyez, un autre exemple. Je suis de la génération qui distingue un et un. D'accord ? Je dis un livre. Et je dis un brin d'herbe, et cet homme est brun. Oui, ben oui. Les Français de 0 à 28-29 ans ne distinguent plus. Hein ? Ils ne distinguent plus. On dit un. C'est-à-dire que dans les 20 dernières années, il s'est passé un changement phénotique tel qu'on ne distingue plus un et un. Que un a disparu. Qu'on ne prononce plus l'article indéfini français de la même façon. C'est stupéfiant, vous vous rendez compte ? Cet article que vous prononcez dans toutes les phrases. Pratiquement, depuis 20 ans, la prononciation a changé en français. Demandez aux jeunes gens, il y en a quelques-uns ici, ils disent un, et non pas un. Bon, voilà un exemple. Qu'enseigne-t-on aux étudiants qui apprennent notre langue ? Qu'enseigne-t-on aux enfants ? Un instituteur qui dit un, ou l'institutrice, impose-t-il son ? Vous voyez ? Or, je ne l'ai vu dans aucun manuel, ça. Or, c'est évident, tous les jeunes gens disent un. Ma fille ne distingue pas un et un. J'ai beau la battre. Vous avez battu vos enfants aussi ? Voilà un exemple. Mais le problème, c'est qui est la source du droit ? C'est-à-dire, qui va reconnaître un beau jour que l'article indéfini français se prononce un ? Je n'en sais rien. Pas l'Académie, pas l'Éducation nationale, voyez ? Or, les instances sont tellement lourdes, la monoglossie est tellement importante que personne n'aurait l'idée de dire « Ah ben non, attendez, l'article en français, c'est un. » Or, de fait, c'est ça. Et quand nous serons morts, ça va nous arriver, eh bien, c'est fini. Plus personne ne dira un. Voyez ? Ben oui. Je suis désolé. Je suis désolé d'attrister un peu cette soirée, mais un jour, on dira un jour. Pardon ? Ah oui, il verra son père dire un.
Alors, la langue évolue, entre autres évolutions, hein, l'acceptation d'un mot peut changer oui. dans le temps. Oui. Je m'interroge sur ce que devient l'article de loi qui contient ce mot. Je songe notamment à un mot tel que laïcité, qui est un mot qu'on voit changer notamment dans la bouche de ceux qui sont proches de l'Église catholique, on l'emploie beaucoup à la place d'athée. Je me demande ce que deviendra la langue française dans un siècle ou deux si on arrive à le faire passer pour le mot athée, et ce que deviendra le pilier de nos institutions qui dit que la République est laïque. Est-ce que se passera-t-il si un dictionnaire d'une académie dit « bon, ben, laïque aujourd'hui, ça veut dire athée ». Voilà.
Belle question. Écoutez, c'est un phénomène tout à fait général qui est que les mots changent de sens. Hein ? Et donc, ce qui importe, ben, je crois que pour compenser, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher que les mots évoluent, d'accord ? Même si certains les font évoluer qu'une arrière-pensée, nous sommes bien d'accord. Le mot laïcité est un très bel exemple. Hein ? On peut avoir une autre conception de la laïcité, bien sûr. Hein ? Alors, comment y répondre ? Ben, y répondre par l'enseignement. Moi, je trouve que l'enseignement ne fait pas une part assez belle du fait de sa part des formations professionnelles, à l'histoire de la langue. Vous voyez, il faut montrer que les mots ont une histoire et que quand on a créé certains textes, comme la Constitution, par exemple, ils avaient un autre sens. Exemple, la Marseillaise. Beaucoup de gens disent, c'est scandaleux, il faut changer les paroles de la Marseillaise, un sang impur. Bien sûr qu'actuellement, un sang impur est odieux. Mais quand on a écrit ce texte, ça avait un autre sens. Donc, au lieu de changer les paroles de la Marseillaise, je crois qu'il faut enseigner tout simplement l'histoire des mots et montrer que laïcité, citoyen, les droits de l'homme, par exemple. J'ai eu un débat avec des amis féministes. Bien. Alors, les droits de l'homme et du citoyen, bien sûr, c'est homme au sens de l'humanité. Et d'autant plus qu'à l'époque, seuls les hommes votaient. Donc, est-ce qu'il faut changer les textes pour mettre les droits de la personne humaine ? Ce que demandent certaines féministes, ou est-ce qu'il faut maintenir le droit de l'homme et du citoyen par respect historique et expliquer qu'à l'époque, homme voulait dire l'ensemble des humains. Vous voyez, c'est un débat. C'est un débat et je vous dirais que je ne suis pas pour qu'on corrige les textes. parce que certains régimes totalitaires ont eu tendance à corriger les textes. Vous comprenez ? Donc je préfère qu'on explique quel sens avait la laïcité au XVIIIe siècle, quand les philosophes l'ont mise en valeur, l'abbé Grégoire, décidément, hein, Diderot, bien, et expliquer que les mots changent. Est-ce que vous avez répondu ? Sinon, on va vers une dérive de réécriture. C'est pas bien. Et c'est important, parce que je crois que c'est un savoir sur la langue, les mots changent de sens tous les jours. Il faut donc toujours être un peu historien. Et c'est pour ça que j'ai une certaine sympathie pour l'orthographe française, parce qu'elle est historienne de la langue. Il y a du savoir historique sur la forme graphique. Et ça, ce n'est pas... pour ça que je ne suis pas un réformateur phonétiste. Réponse à oui. tout.
Monsieur, avant-dernière oui. question.
Oui, monsieur Claude Agege du Collège de France propose que pour l'Europe soient enseignées de manière obligatoire les principales langues européennes, sauf l'anglais. Non, mais c'est précisément pour, sachant que l'anglais, de toute façon, a largement sa part du gâteau.
Oui, j'en ai souvent parlé avec Claude. Il est un peu radical dans son livre, bien sûr, c'est notre ami Claude, il est provocateur. Comme d'habitude, il a raison. C'est-à-dire, il a raison sur le fond, mettons à part la provocation. Il y a une autre proposition que j'aime beaucoup, c'est celle de son collègue au Collège de France, Harald Weinrich. Weinrich me disait, on devrait, c'est autrement, vous allez voir, on devrait rendre l'enseignement de l'anglais obligatoire comme deuxième langue. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il faut bien montrer, c'est qu'il y a un désir d'anglais. Il y a un désir d'anglais. Les parents veulent que leurs enfants apprennent l'anglais. Ça, on ne pourra pas aller contre. Je veux dire qu'il y aura le ministre qui décidera de ne pas enseigner l'anglais sautera dans les 24 heures. C'est évident, évident. Donc, faire de la politique, c'est jouer avec ça. Et à mon avis, je serais plutôt pour la solution de Weinrich, c'est-à-dire considérer que la première langue qu'on apprend, et en particulier à l'école primaire, je trouve que l'enseignement trop précoce des langues qui se réduit à l'enseignement précoce de l'anglais n'est pas une bonne chose. On donne maintenant 14 ans d'enseignement d'anglais aux enfants. Les familles considèrent qu'elles ont déjà donné. Comment voulez-vous qu'on en prenne aussi l'allemand, l'italien, le portugais, puisqu'on veut faire 14 ans d'anglais à un enfant? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'idée de Weinrich est très juste. On commence par une autre langue. On fait ses premières armes, et peut-être dès l'école primaire, en allemand, en italien, en portugais, en russe, tout ce que vous voulez. Et puis la deuxième langue, c'est l'anglais, puisqu'il vaut bien passer par là. Mais on fait de l'anglais comme deuxième langue, ayant vu qu'il existe d'autres langues, d'autres cultures. On s'initie à l'allemand, au russe, à l'italien, et on passe par l'anglais après. Voyez ? Parce que je pense que l'idée de Claude Agege d'interdire l'anglais, aucun ministre n'acceptera ça. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Alors je préfère dire, vous en voulez, vous en aurez, en deuxième langue. Mais là déjà, il faut du courage. Puisque de toute façon, l'ensemble du système scolaire français, et nous en sommes heureux, a deux langues vivantes obligatoires. Tout le système. Il y a peu de pays européens qui ont deux langues vivantes obligatoires au collège. Hein. Donc, puisque nous avons ça, pourquoi ne pas jouer là-dessus ? Demandons à un ministre courageux de rendre l'anglais uniquement deuxième langue. Oui.
J'ai une dernière question là. Une dernière question.
Une petite question historique. Est-il vrai que le premier congrès des États-Unis a voté pour choisir la langue qui serait celle des États-Unis et qu'ils ont choisi l'anglais contre le français à une voix de majorité ou à très peu?
Oui, et il y a aussi l'allemand. L'allemand a failli être... Quand on prend... je vous laisser 5 minutes. Je vais écrire un article un jour là-dessus sur la naissance des langues officielles. C'est tout à fait curieux. Deux exemples. Donc, l'Amérique... Ben à l'époque, l'Amérique, c'était une petite fédération d'États. Hein. Ils ont hésité entre le français, l'anglais et l'allemand. Et il y avait un lobby assez puissant du côté de Chicago pour l'allemand. L'allemand a failli être la langue des États-Unis. C'est amusant. Le français l'aurait été. Et pour le japonais, c'est très curieux pour le japonais. Quand à l'ère des Meiji, quand on a voulu développer et moderniser le Japon, on s'est dit, il faut une langue officielle. Alors, ils ont commencé, l'empereur était pour l'allemand. Parce que les Allemands étaient très importants au Japon. On a pensé à l'allemand, et puis on a renoncé à l'allemand. Alors on a pensé à l'anglais. Et puis on a repensé une autre langue. Et puis c'est un étudiant japonais qui était à Yale, qui faisait une thèse sur le japonais, qui s'est permis d'écrire à l'empereur en disant, vous savez, il y a une autre langue possible, c'est le japonais. Et donc, finalement, ils se sont réveillés, ils ont pris un dialecte de la région de Tokyo. À l'époque, la capitale était passée de Kyoto à Tokyo. Et presque par hasard, on a pris le japonais comme langue officielle au Japon. C'est assez amusant et j'en ai d'autres exemples comme ça. Bien. Oui ? Ouais. Oui, est-ce que c'est générique ? C'est générique. Non, je vous explique. Car dans toutes les langues, il faut exprimer le générique, c'est-à-dire la notion générale. Et dans les langues indo-européennes, en latin déjà, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, la femme aussi, bien. Donc, homo homini lupus, c'est du masculin générique. Donc je distingue en français le masculin spécifique, l'homme était dans la salle, un homme bien spécifique, et puis l'homme est un loup pour l'homme. Donc, quand je dis « il faut qu'un ministre décide », c'est générique. Parce qu'il est générique, mais ça c'est dans la langue. Non, c'est dans toutes les langues indo-européennes. Attendez, laissez pas parler, monsieur. Non, non. C'est dans toutes les langues indo-européennes. C'est-à-dire que, dans toutes les langues indo-européennes, vous dites, vous exprimez le générique par le masculin. Je prends un exemple très simple. Quand on écrit un décret, on dit « le ministre de la Culture a autorité sur, etc. » parce que ça vise tous les ministres de la République dans tous les siècles. D'accord ? Mais actuellement, la personne qui occupe les fonctions de ministre de la Culture être une ministre. C'est-à-dire qu'il y a une personne spécifique, Catherine Trautmann, elle est la ministre de la Culture en ce moment. Mais ses fonctions sont celles de ministre de la Culture. Vous comprenez ce que je veux dire ? Contrairement aux Québécois, mais oui, c'est simple.
Voilà. Pas trop. Hein. Merci.